franceinter.fr.
Bonsoir à tous. Retour dans ce journal sur le salon de l'agriculture qui ouvrait ses portes ce matin et sur la visite présidentielle dans ses allées. Emmanuel Macron accueilli par quelques sifflets et surtout beaucoup de questions inquiètes du monde paysan. Avis de grand froid sur la France. À partir de demain, les températures vont plonger assez profondément sous les 0 degrés. Et dans les stations de ski, on mise sur la prudence et sur la prévention. L'ONU doit se prononcer dans la soirée sur une trêve dans la région syrienne de la Rota, pilonnée par les bombardements de Damas. Vous entendrez le témoignage d'un reporter syrien sur place dans ce journal. Enfin, nous reviendrons sur les dernières heures de Jeux Olympiques des athlètes français avec un bilan comparable à celui de Sochi, sur les créations du Mobile Film Festival, mais aussi sur vos conditions de circulation. Tout ça, ce sera à la fin de ce journal. C'est presque devenu une tradition républicaine non officielle. Quand on ouvre un salon de l'agriculture, le président de la République y apparaît presque immédiatement. Règle respectée par Emmanuel Macron, sous haute protection. Il a lui aussi arpenté pendant plusieurs heures les allées du salon, en profitant pour évoquer différents sujets d'actualité pour l'agriculture française, la PAC, le plan loup ou encore le glyphosate. Une visite ponctuée par quelques sifflets, par plusieurs discussions un peu musclées, mais globalement assez calme, Benjamin Ely.
Un accueil bienveillant globalement pour le président, des selfies à tour de bras et cette tendance au bain de foule improvisé qui rend fou les agents de sécurité déployés par dizaines autour du chef de l'État. Des inquiétudes exprimées aussi à la volée par ces agriculteurs qui tiennent salon, inquiétudes sur le projet d'accord européen avec les pays du Mercosur, inquiétudes sur l'interdiction du glyphosate et en fin de matinée, au détour d'une allée, quelques sifflets.
Attendez, vous êtes calme.
Mais ouais, je suis calme, moi.
Vous m'adressez poliment. Non, vous m'avez sifflé dans l'autre tout à l'heure.
Il faut être lucide, c'est pas en un salon que vous changez les choses. Et donc, moi, ce que je crains le plus, c'est pas les dizigues qui sont à 500 mètres planqués et qui utilisent des sifflets. Ceux-là, dès que vous allez les voir, ils se dégonflent. C'est ceux qui n'ont même plus l'énergie de protester. C'est ceux-là qui m'intéressent. Merci à vous, hein.
Oui, j'arrive.
Il arrive au chevet du monde paysan. Emmanuel Macron a tenté de répondre au malaise à travers un marathon au salon, non dénué de tension, mais surtout rythmé par les applaudissements. Pas de G2 cette année, le président a peut-être mouillé la chemise, mais il rentre avec un costume impeccable à l'Élysée. Au salon de l'agriculture, Olivia Branger, Benjamin Ely, France Inter.
Et en marge de cette visite, Emmanuel Macron a aussi été interpellé sur un sujet bien précis qu'on n'attendait pas forcément sur place, la réforme annoncée du statut de cheminot. L'un d'eux s'est justement inquiété du futur de son statut et de celui de son entreprise, la SNCF.
Il faut réformer le statut des cheminots. Allez voir les agriculteurs, ils n'ont pas le statut non plus. Faut pas raconter des craques aux gens. Donc moi je suis pour protéger, pour qu'on ait un bon service, je suis pas pour tout casser. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas le même rythme. Moi mon grand-père il était cheminot, il n'avait pas la même vie que vous avez aujourd'hui, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et donc je peux pas payer, c'est le contribuable qui paye aujourd'hui le statut tel qu'il est. Je peux pas avoir d'à côté des agriculteurs qui n'ont pas de jour férié, etc., qui auront parfois pas de retraite, et dire le statut des cheminots, faut pas le changer. Vous êtes jeune, je suis un peu plus âgé que vous, mais vous êtes jeune, je vais pas vous mentir, mais je vais pas vous dire faut rien changer. Et pour votre génération, je vous l'assure, hein, pour votre génération c'est mieux. Je vais pas faire rentrer un cheminot aujourd'hui comme on le faisait rentrer il y a 50 ans. Je veux dire, ce serait fou.
Emmanuel Macron au micro de Benjamin Ely. Il va faire froid, très froid même sur toute la France à partir de demain. Météo France prévoit des températures ressenties allant jusqu'à moins 25 degrés en montagne, mais des températures négatives aussi sur presque tout le pays avec une vague de froid directement venue de Sibérie, ce qu'on appelle le phénomène Moscou-Paris. 37 départements français ont activé le plan grand froid. La Haute-Savoie a même déclenché la procédure froid extrême pour la journée de demain. Désagréable, oui, mais pas forcément dangereux, à condition de suivre un certain nombre de conseils, en particulier si vous êtes en vacances à la montagne. Laurent Mermet-Husson est l'un des responsables de la station de ski des Rousses dans le Jura. On y attend moins 15 degrés la semaine prochaine et moins 10 degrés en ce moment.
Beaucoup de nos visiteurs sont des citadins qui ne sont pas forcément habitués à vivre au quotidien avec ce froid. Donc on va prêter attention donc notamment aux jeunes enfants, en conseillant bien les parents de bien les habiller, les gants, les lunettes, le bonnet, la crème solaire, parce que ce n'est pas parce qu'il fait froid que le soleil n'agit pas. Donc évidemment, il faut toujours être bien habillé, bien faire attention au niveau de la coiffe, hein, bonnet, cagoule, lunettes, ça c'est important, notamment les lunettes. Les gants, ben, on peut éventuellement privilégier les moufles par rapport aux gants qui permettent de bien garder la chaleur aux extrémités. Et puis on va penser aussi à la nourriture, hein, si possible essayer de manger chaud le plus possible, bien s'hydrater, parce que lorsque les conditions sont froides, on a tendance à se déshydrater, on s'en rend pas toujours compte. Et puis essayer de manger un peu avec de la vitamine C, et puis quelques fruits secs en encas, et puis tout devrait bien se passer.
Propos recueillis par Frédéric Carbonne. Plus de 500 civils tués en moins d'une semaine, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. C'est le bilan des bombardements aériens massifs organisés par le régime de Bachar al-Assad dans la région de la Ghouta orientale. Une situation alarmante que le Conseil de sécurité de l'ONU doit examiner ce soir pour réclamer un cessez-le-feu. En attendant que la diplomatie aboutisse, les habitants, eux, vivent sous la menace quasi permanente des bombes. Il y a quelques minutes, notre consoeur Mélanie Houet de France Info a réussi à joindre Wassim Al-Khatib. Il est reporter sur place et directeur de l'institution syrienne de documentation et d'édition.
Les gens vivent dans une peur constante, même la nuit, car il y a toujours 3 ou 4 bombardiers qui survolent simultanément la Ghouta. Ils font des rotations et ciblent sans répit les civils qui n'ont pas d'endroit sûr pour se protéger. Ils se réfugient dans des abris. Ils sont aujourd'hui entre 150 et 200 000 à s'y être cachés, de peur d'être bombardés. Mais le régime et les avions de chasse russes parviennent à les cibler avec leurs frappes, même dans les sous-sols. Voici un des raids aériens qui vient de cibler à l'instant la zone dans laquelle je me trouve. Les bombardements ne cessent jamais. Les civils ne peuvent même pas sortir de leurs abris, ne serait-ce que pour trouver de l'eau ou de la nourriture.
Et le vote à l'ONU sur le sujet a déjà été repoussé 2 fois hier soir pour tenter d'éviter un veto de la Russie, alliée du président syrien. La Corée du Sud, elle, s'apprête à vivre son dernier jour de Jeux Olympiques en présence d'une invitée prestigieuse, Ivanka Trump, fille du président américain, qui assistera à la cérémonie de clôture en son nom. Une présence pas seulement symbolique, au lendemain de plusieurs annonces de Donald Trump sur de nouvelles sanctions visant le régime de Pyongyang, la Corée du Nord donc, les plus sévères jamais infligées selon lui. Ivanka Trump qui a elle-même rappelé la détermination américaine à infliger le maximum de pression pour assurer la dénucléarisation de ce pays. Frédéric Ojardias.
Les nouvelles mesures américaines visent 27 entreprises maritimes et 28 navires suspectés d'aider Pyongyang à échapper aux sanctions actuelles. Les entités mises sur liste noire sont basées en Corée du Nord, mais aussi en Chine ou à Singapour. L'objectif est d'empêcher les navires nord-coréens de contourner les sanctions en se livrant à des transferts illicites de charbon ou de pétrole en haute mer. Washington cherche ainsi à épuiser les réserves de devises de Pyongyang pour l'obliger à renoncer aux nucléaire. Si ces nouvelles mesures punitives ne remplissent pas leur objectif, les États-Unis passeront à la deuxième étape qui pourrait être très rude et très fâcheuse pour tout le monde, à menacer Donald Trump. Sa fille, Ivanka, se trouve à Séoul pour la cérémonie de clôture des JO et beaucoup se demandent si des membres de sa délégation pourraient rencontrer en coulisses les émissaires nord-coréens attendus dimanche. Ces nouvelles sanctions pourraient donc être aussi un moyen pour Washington d'aborder un futur dialogue avec Pyongyang en position de force. Séoul, Frédéric Ojardias, RFI pour France Inter.
Et autre annonce diplomatique de l'administration Trump hier, la décision de transférer sans doute dès le mois de mai l'ambassade américaine en Israël de Tel Aviv à Jérusalem et donc de reconnaître cette dernière comme capitale d'Israël. Décision critiquée ouvertement aujourd'hui par la Turquie. Le ministre turc des Affaires étrangères y voit une insistance à démolir les conditions pour la paix en foulant aux pieds le droit international et les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Des milliers d'Italiens dans les rues cet après-midi pour répondre à des appels diamétralement opposés. D'un côté, le rassemblement à Milan de 15 000 soutiens du principal candidat d'extrême droite du pays, Matteo Salvini. De l'autre, des milliers de manifestants antifascistes réunis à Rome à l'appel de la gauche italienne. De manifestations en plein cœur de plusieurs semaines de tensions en marge de la campagne électorale. Les précisions d'Olivier Tosseri.
L'épreuve de force dans la rue précède celle qui aura lieu dans une semaine dans les urnes. Samedi, les manifestations se sont multipliées dans plusieurs villes italiennes, de Milan à Palerme, en passant par Rome. Dans la capitale, la gauche unie, événement rare au cours d'une campagne électorale où elle a affiché ses divisions, a participé à un cortège pour dénoncer la montée du fascisme et du racisme. À Milan, Matteo Salvini réunissait ses partisans sous les slogans « Les Italiens d'abord » ou encore « Salvini, Premier ministre ». Son parti, la Ligue, s'inspirant ouvertement du Front National de Marine Le Pen. À le vent en poupe et talonne dans les sondages, le parti parti Forza Italia de Silvio Berlusconi. Sa manifestation avait surtout comme but de mettre la pression sur le Cavaliere pour revoir les équilibres au sein d'une coalition de centre-droit qui est favorite à une semaine du scrutin. Le ton de la campagne électorale qui le précède s'est durci ces derniers jours au fil de manifestations violentes. Le ministre de l'Intérieur appelle toutes les forces politiques à faire baisser les tensions. Elle préfère les entretenir pour en recueillir ou pas les bénéfices dans les urnes dimanche prochain. Rome, Olivier Tosseri, France Inter.
Les marches anti-Kabila interdites demain à Kinshasa en République démocratique du Congo. Une nouvelle manifestation des catholiques du pays était prévue. Ils protestent toujours contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila, dont le mandat s'est achevé en décembre 2016 et qui veulent pousser à renoncer à se présenter à nouveau en 2018. Les deux dernières marches contre ce président avaient déjà été interdites et réprimées à balles réelles, faisant alors plusieurs morts.
Le journal de 19h. Sur France Inter.
Direction les JO de Pyeongchang, où un Français a raté sa médaille de peu tout à l'heure. Le patineur français Alexis Contin a terminé 10e de sa catégorie. Il a malheureusement coupé la ligne d'arrivée en 5e position sur la Mass Start en patinage de vitesse sur grande piste. Le podium n'était pas si loin, mais pour le Malouin de 31 ans qui a failli arrêter toute sa carrière à cause d'une maladie de la thyroïde, la déception est immense. Alexis Contin.
C'est des courses qui jouent à rien du tout. Voilà, je pouvais très bien être en haut du podium ou cinquième au sprint. On a joué le tout pour le tout et ça n'a pas souri. Je me retrouve enfermé derrière le coréen. C'est là où je perds la course. Pendant la course, j'ai fait des choses très bien. Je me suis bien placé. J'avais bien lu la course. Mais ça joue vraiment à rien du tout et c'est ça la Mass Start. Et c'est ce qui fait la beauté de cette course. Pour moi, c'est la plus belle. Non, je suis conscient d'être un miraculé. Là, je devrais pas être là. Ma carrière aurait dû s'arrêter il y a 4 ans à Sochi, à la clinique. Et voilà, on revient pas normalement à un tel niveau après ma maladie. Mais bien, il y a forcément un peu de fierté aussi d'avoir fait cette Olympiade comme ça, d'avoir une rechute il y a un an, de m'être fait enlever la thyroïde. Et un an après, je suis là, je joue la médaille. C'est beau. Et si ça peut être un message pour tous les malades, voilà, les remettre un petit peu dans le sport et montrer que on peut faire du sport. Bon, on peut pas être champion olympique, mais on peut faire du sport tous les jours.
Alexis Contin au micro de Fabrice Rigobert. Alors, même s'il n'y aura pas de 16e médaille française, il y en a quand même 15 qu'on va bel et bien ramener dans les valises. C'est le même palmarès qu'à Sochi pour les tricolores. À l'époque, c'était un record pour la France aux JO d'hiver. Il y a quand même 5 médailles d'or cette fois, mieux qu'en Russie. Il y a bien sûr des déceptions, mais globalement pour Denis Masseglia, président du Comité national olympique et sportif français, nos sportifs quittent la Corée du Sud avec les honneurs, la tête haute et le cou un peu chargé.
L'ensemble de ce que les athlètes français ont fait fait honneur au maillot. Je crois que tout le monde a donné son maximum, tout le monde a été à un niveau de performance extrêmement élevé. Et quand ils vous manquent 400e, 600e, etc., ben, ils ne sont pas du bon côté, c'est tout. Il y a eu des choses absolument extraordinaires. Que Martin arrive à se remettre dedans pour gagner la Mass Start de 10 cm, bon, c'est quand même fabuleux, quoi. Je crois qu'il y a eu des moments d'intense émotion. Que Gabriella arrive à patiner pour que même les professionnels de la discipline ne voient pas jusqu'à la fin du programme court que sa robe avait cédé. C'est aussi un moment particulièrement important de ces Jeux. Donc il y a eu plein de belles choses. Et moi je crois qu'au total, on ne peut que positiver sur le comportement d'ensemble de l'équipe de France Olympique.
Et puis je vous parlais il y a quelques minutes de la cérémonie de clôture de ces JO demain. Sachez que pour la délégation française, c'est la patineuse Gabriella Papadakis, médaillée d'argent, qui portera le drapeau tricolore accompagné de son coéquipier Guillaume Cizeron. En rugby, dans le cadre du tournoi des Six Nations, l'Irlande a battu tout à l'heure le Pays de Galles 37 à 27. Hier soir, la France avait déjà terminé sa traversée du désert de 11 mois, ou en tout cas trouvé une oasis, en battant l'Italie 34 à 17. Et puis, on est en plein cœur aussi de la 18e journée de Top 14, avec tout à l'heure la victoire in extremis de Montpellier face à Bordeaux-Bègles, 11 à 10. En ce moment même, Castres reçoit Lyon, Clermont affronte Oyonnax, le stade français Agen, avant la rencontre Pau Racing 92 ce soir à 20h45. Un petit coup d'œil aussi sur la journée de Ligue 1 de football. Il y a quelques minutes, Toulouse et Monaco ont fait match nul, 3 partout. Ce soir à 20h, 5 matchs, Dijon-Caen, Lille-Angers, Guingamp-Metz, Rennes 3 et Nantes-Amiens. Et puis comme chaque semaine, c'est l'heure de parler maintenant de votre vie connectée sur France Inter, sur votre téléphone ou votre ordinateur. Bonsoir Christine Siméon.
Bonsoir Olivier.
Et si on allait voter hein, ce soir, c'est l'invitation que vous nous lancez. Voter pour un film de la sélection du Mobile Film Festival. C'est en ligne ou dans votre smartphone et ce sont donc des films tournés avec smartphone justement.
Oui, il y a un dénominateur commun, avoir un petit peu d'audace et avoir produit quelque chose qui se tienne en une minute avec son téléphone. Les réalisateurs de ces petits films sont peut-être de futurs grands réalisateurs.
Les futurs grands réalisateurs de la génération smartphone, selfie, YouTube.
Oui, mais là, on leur demande quand même de prouver qu'ils ont l'étoffe des grands. Et dans les 50 films qui sont en sélection finale, ils sont jugés d'une part par le public et d'autre part par un jury de professionnels présidé cette année par Patrice Lecomte.
Et il n'y a pas de thème imposé. Alors, quels sont les sujets qui reviennent le plus ?
Alors, des films assez intimistes sur la dépression, les rêves, les relations entre les êtres humains, les frères et sœurs. Des films drôles, ça, l'humour a toujours sa part dans ce festival. Et cette année, il y a quand même une tendance assez forte sur l'égalité homme-femme ou les violences faites contre les femmes. Je rappelle que d'ailleurs que le hashtag MeToo est utilisé plus de 50 000 fois par jour sur Twitter. Balance ton porc, qui est typiquement français, c'est de l'ordre de 2000 messages par jour qui portent ce mot-clé, sur Twitter seulement. Le sujet est abordé de manière grave ou humoristique. Et je vais vous faire écouter un extrait de ce film qui s'appelle Otage. Un homme prend une femme en otage et la menace d'un revolver. En face de lui, un policier essaie de négocier et propose de prendre sa place. Écoutez, attention, c'est un film canadien et ça parle québécois.
Ok, tu vas laisser la jeune femme partir. Je vais aller prendre sa place comme otage.
Ok.
Quoi? Je peux pas faire une otage parce que je suis une femme, c'est ça?
Ah non, c'est pas ça que je voulais dire.
Une femme peut faire tout ce qu'un homme peut faire, tout de même plus. Je fais une très bonne otage, tu sauras.
Voilà, c'est vous quand même assez marrant, effectivement. On a tout compris, malgré l'accent.
Alors, ce n'est pas mon film préféré. Je suis plutôt sensible à cette autre scène où l'on voit une femme à côté de son compagnon. Là, c'est plus dramatique. Elle est en train de commander une pizza. Écoutez bien.
Bonsoir. J'aimerais commander deux pizzas, s'il vous plaît. Oui. Et un coca avec la napolitaine.
Très bien, madame. Surtout, restez calme.
Voilà.
Donnez-moi votre adresse, s'il vous plaît.
20 rue des Martyrs, dans le 9e.
Merci. La police va intervenir à votre domicile.
20h15, 20h30.
En attendant, continuez comme
très
ça.
Bien.
Faites mine de rien.
Merci beaucoup.
Vous avez bien fait d'appeler.
À tout à l'heure.
Voilà, je pense que vous avez compris le...
Oui, on comprend qu'en fait, elle lance un message au secours en faisant croire qu'elle appelle pour une pizza, c'est
voilà,
ça.
Voilà, et tout se joue sur le film, en fait, sur le décalage entre ce qu'on voit à l'image, le dialogue qui semble se tenir et la révélation à la fin. Alors, vous verrez par vous-même sur franceinter.fr, je vous ai fait une petite sélection personnelle.
Et si vous vous sentez l'âme d'un juré de festival, il vous reste quelques jours pour visionner les 50 films de la sélection du Mobile Film Festival. 23 films français, 27 venus d'ailleurs, tout ça sur un total de 1055 candidats de départ. Merci Christine Siméon. On revient tout de suite sur France Inter sur cette très longue journée que vous avez peut-être passée sur la route. On fait le point avec vous Armel Balogog.
Et la situation est enfin fluide sur les grands axes et autour des grandes villes en direction des Alpes. À Grenoble, Lyon, Mâcon et Bourg-en-Bresse, les derniers points rouges sur nos cartes, ce sont des routes départementales au pied des stations de ski. La 909 en Haute-Savoie, près du Grand Bornand et de la chaîne des Aravis. La départementale 1212 qui passe par Praz-sur-Arly ou encore la 106 dans le Grand Massif des Alpes. Comptez une demi-heure de bouchon. Et puis la circulation se fait encore par à-coup sur la Nationale 90 entre Albertville et Bourg-Saint-Maurice et dans les Pyrénées sur la Nationale 20 en remontant vers Foix. Ce sont donc vraiment les derniers kilomètres. Dans le sens des retours, un bouchon à signaler sur l'A6 entre Lyon et Paris en traversant la Côte d'Or.
Merci beaucoup Armel Balogog en direct du PC Mobilité de Radio France et très belle soirée à vous tous.
Et merci Olivier Bénisse pour ce journal.
La météo avec Région Job. Souriez, des milliers d'entreprises recrutent près de chez vous sur regionjob.com.
La météo, c'est avec les prévisions de Jean-Pierre Hameau de Météo France.
La nuit prochaine, à la faveur des belles éclaircies nocturnes, les températures vont chuter et les gelées seront quasi généralisées. On attend en fin de nuit moins 6 degrés du côté de Langres, moins 5 à Nancy et à Lille, moins 4 à Dijon, moins 3 à Rouen, Orléans et Mont-de-Marsan, moins 2 degrés dans la capitale ainsi qu'à Toulouse et à Pau, moins 1 à La Rochelle et Bordeaux, 0 à Biarritz, comptez 1 à 7 degrés autour de la Grande Bleue. Demain, nous allons retrouver un temps nuageux vers les Alpes frontalières et de la Provence à la Côte d'Azur, sans oublier l'île de Beauté. On attend encore de faibles précipitations précipitation sous forme de pluie ou de neige en montagne au-dessus de 800 mètres et partout ailleurs le temps sera au beau fixe après dissipation de quelques grisailles matinales. La bise va souffler entre 50 et 70 km heure. Les maximales demain après-midi seront comprises entre 0 et 5 degrés dans la moitié nord, comptez 7 à 11 degrés dans la moitié sud.